au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, bonjour, bonjour. C'est lundi et le lundi, ben oui, vous allez passer les prochaines 90 minutes avec moi et avec l'équipe. L'équipe qui est composée de, ben bonjour Mathieu Tessier,
bonjour,
qui est derrière
Denis Martin
la vitre,
Chabot.
Qui est en train de regarder ce qui se passe et que tout est bien en place pour cette émission. Et ensuite avec moi, Louis Bernis, salut.
Bonjour Denis Martin.
Et en ligne au téléphone, Daniel Rioux, salut.
Bonjour.
Alors juste pour vous dire, on va commencer par vous dire que, oh wow, il fait bon, on se croirait l'été là, il fait beau, il fait chaud. Non sérieusement là, ça s'est réchauffé. Les gens, les experts en climat, en fait en météo, qui nous disent qu'on vient de passer les journées, en fait la partie, le cœur de l'hiver où il fait froid. En principe, on devrait maintenant avoir le reste de l'hiver un peu moins froid. On verra. Je vais vous dire tout de suite que c'est pas mal vrai, il fait plus chaud dans l'est du pays. Puis on va dépasser le point de congélation, surtout dans le sud du Québec, l'est et le sud ontarien. Soleil, passage nuageux. Il y aura probablement des précipitations à prévoir cette nuit. Qu'est-ce que sera la forme? Ça pourrait être de la pluie ou de la neige. Par contre, dans l'ouest, après un redoux majeur, eux autres, c'est le retour de l'hiver avec des chutes de neige importantes et de la poudrerie dans les prairies. Et c'est la première chute de neige à Vancouver. Ils n'ont pas eu de neige cet hiver encore. Alors, Louis, on parle de quoi aujourd'hui?
Je suis un peu en retard. Enfin, je vais vous parler une dernière fois du Super Bowl. Je sais que c'était il y a une semaine. Mais je vous en parle avec le dernier indicateur qui prouve que le concert de la mi-temps a été un vrai succès. Il a fallu quelques jours aux statisticiens pour rassembler ces données. Donc, je vous explique une dernière fois pourquoi Bad Bunny vraiment a fait un grand show, un grand concert.
Pour aller se départir des surplus de bière et d'ailes de poulet, mais je...
Exactement, ça concerne une pièce de la maison en particulier. Ouais. Et puis, je vous parlerai de la meilleure poutine du monde, en dehors du Canada, le concours de la poutine internationale. C'est en France pour la troisième année consécutive et la recette est assez originale, vous allez voir.
Hein. Bon, et nous, on va aller du côté de Daniel Rioux qui va nous parler de la poutine de l'amour.
La poutine de l'amour, c'est le cas de le dire. Vous savez que ça fait depuis le début du 19e siècle, la rencontre amoureuse est un marché. Hein?
Ouais.
Ça, j'apprenais ça. Je savais pas que ça... Ben, on avait des petites annonces dans le temps. Est-ce que vous êtes du genre, le matin, à vous lever, si vous avez appliqué sur un site amoureux, vous levez le matin pour aller voir le nombre de réponses que vous avez reçues. Il y en a qui sont vraiment addicts à tout cela.
Moi, je préfère pas y aller parce que ça serait trop déprimant.
Ben, ça peut être ordinaire. Et puis, ben, on parle ici, je trouve que c'est bien, c'est la solitude, c'est une errance entre relations floues. Les Tinder de ce monde, les Bumble de ce monde. Il y a une panoplie de sites. Alors, j'ai glané de l'information dans Sciences humaines, novembre 2025, et dans le magazine Tout chaud là, de psychologie 2026, janvier, pour vous parler de ça, là, de l'amour, parce qu'on va en même temps boucler la fin de semaine de la Saint-Valentin.
Oui, qu'on en finisse un peu, là. On est 16 février aujourd'hui.
Ouais.
La bonne nouvelle, c'est qu'hier, les chocolats étaient en vente à 50%. 16 février, d'ailleurs, c'est la 47e journée de l'année. Et, ça fait longtemps que je ne vous avais pas dit ça, mais il reste 318 jours avant le bye-bye. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu?
Alors, je me demandais à quel moment vous alliez commencer à faire le décompte.
Il faut bien que je vous fasse rire un peu. Alors, un petit peu l'éphéméride aujourd'hui. En Égypte, 1923, c'est le tombeau du pharaon Toutankhamon qui est ouvert pour la première fois par l'archéologue britannique Howard Carter. Et cette découverte est l'une des plus significatives de l'histoire de l'égyptologie, révélant des trésors inestimables et d'une riche histoire millénaire. Et mon ami fidèle, 1959, Fidel Castro devient officiellement premier ministre de Cuba, puis je pense que c'est en 1976 qu'il devient président de ce pays. Et 2005, on l'a oublié celui-là, est-ce qu'on l'a oublié? En fait, on a tout fait pour le faire oublier, Kyoto, le protocole de Kyoto, un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 2005, mon Dieu, c'est pas passé grand-chose depuis ce temps-là. Et puis la citation du jour, hein? « La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite ses animaux, » Mahatma Gandhi. Moi, je me poserais la question, si on pourrait dire aussi à propos des États-Unis, de la manière dont on traite ces immigrants. Ben voilà. Au sommaire aujourd'hui, en plus de ce qu'on a de nos collaborateurs, collaboratrices, on va parler de Record d'art, c'est Vivre à nouveau, une pièce de théâtre qui nous vient du Pérou. Et c'est David et Maricel Mendes-Yepes qui vont nous parler de ça, qui s'en vient ici à Montréal. On va aussi parler, on parle beaucoup de théâtre aujourd'hui. On reçoit Natacha Canapé-Fontaine pour parler de sa pièce Wash aux écuries. Et on va parler aussi avec Céleste Godin de la pièce de théâtre Bouée. Mais d'ici là, on va aller en musique.
No pain, no gain. France d'amour avec Souldia.
Alors, pour ceux qui se demandent dans les décomptes qu'on fait, je peux vous en faire un aussi, faire plaisir à quelqu'un qui nous a contactés. Il reste 124 jours avant le début officiel de l'été. Bon, c'est dit. Le devoir dans notre revue de presse aujourd'hui, le roi des bosses s'est illustré une fois de plus au sommet du podium hier aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le Québécois Michael Kingsbury a décroché la toute première médaille d'or du Canada lors de l'épreuve inaugurale des bosses en parallèle. Après avoir remporté l'argent en individuel vendredi, l'athlète de deux montagnes porte son total à 5 médailles olympiques récoltées en 4 participations aux Jeux. Cette victoire couronne un retour à la compétition réussi après qu'une blessure l'ait forcé à faire l'impasse sur la Coupe du monde en décembre dernier. Au classement général, cette performance permet au Canada d'inscrire son premier titre d'or au tableau des médailles de 2026. Le Parti libéral du Québec, dans le Devoir, toujours, a officiellement présenté son nouveau chef, Charles Milliard, lors d'un rassemblement militant à Trois-Rivières. Dans un discours aux accents préélectoraux, le successeur de Pablo Rodriguez s'est engagé à faire du PLQ un parti irréprochable en misant sur l'intégrité et la transparence. Sur le plan des promesses, Charles Milliard propose notamment la mise en chantier de 100 000 logements par an, la création d'une plateforme de télémédecine publique accessible 7 jours sur 7 et une clause grand-père pour les immigrants touchés par la réforme du programme d'expérience québécoise, le PEC. Charles Milliard devient ainsi le 17e chef de l'histoire de ce parti, après avoir été le seul candidat dont la candidature a été officiellement retenue au terme d'un processus de sélection. Dans la presse plus, aujourd'hui, le déploiement du nouveau système d'information de laboratoire provincial provoque d'importants ratés dans la transmission des résultats médicaux au Québec. Une enquête révèle qu'au seul groupe de médecine familiale Saint-Louis-du-Parc à Montréal, plus de 740 rapports d'analyse ne se sont jamais rendus aux médecins prescripteurs entre mai 2024 et novembre 2025. Le problème proviendrait d'une erreur de configuration dans les menus déroulants utilisés par les techniciens, acheminant parfois des résultats critiques vers des boîtes de réception inactives. Bien que Santé Québec affirme que près de 99 % des tests sont transmis correctement, ce faible pourcentage d'erreurs représente tout de même plus de 360 000 résultats mal acheminés pour la seule année 2025. Pour corriger la situation, les autorités du système de santé envisagent l'implantation de codes QR sur les ordonnances afin d'automatiser la saisie des données. Ce système, donc, dont le coût est estimé à 72 millions de dollars, doit remplacer l'ensemble des 119 systèmes locaux de la province d'ici mars 2027. Toujours dans le Devoir, les écoles publiques au Québec alternatives, donc, sont victimes de leur succès. En une décennie, leur nombre est passé de 31 à 49 établissements, scolarisant aujourd'hui plus de 8 000 élèves. Pourtant, cette croissance ne suffit pas à répondre à la demande, laissant de nombreux parents devant des listes d'attente interminables. Ce modèle qui mise sur l'implication parentale, l'absence de notes chiffrées et l'apprentissage au rythme de l'enfant séduit des familles qui jugent le système traditionnel trop rigide. Toutefois, la création d'une nouvelle école alternative relève souvent du parcours du combattant, nécessitant entre 4 et 7 ans d'efforts citoyens avant de voir le jour. Faute de place, certains parents choisissent alors l'école à la maison comme l'unique solution de repli. Actuellement, 8 nouveaux projets d'écoles alternatives sont officiellement en gestation à travers la province pour tenter de pallier ce manque d'espace dans le réseau public. Par actualité, maintenant, dans la presse du 15 février, le monde du travail québécois traverse une mutation profonde alors que les causes d'invalidité ont radicalement changé de visage. Selon les grands assureurs comme la Sun Life et l'IA Group Financier, la santé mentale est désormais le principal motif de congé maladie, dépassant largement les blessures physiques. En 2024, la Sun Life rapportait que 40 % de ses demandes d'indemnisation étaient liées à des troubles psychologiques. Les experts pointent du doigt un cocktail de facteurs, l'anxiété post-pandémie, l'inflation galopante et le poids croissant de l'approche aidante, notamment là chez les femmes. Pour plusieurs employeurs, ces absences représentent un véritable casse-tête de gestion. Contrairement à une fracture, la durée d'un rétablissement psychologique est souvent incertaine, rendant le remplacement temporaire de personnel complexe. Au total, les assureurs ont versé 2,3 milliards de dollars en prestations d'invalidité au Québec au cours de l'année 2024. Dans le Journal de Montréal du 15 février, un collectif composé de plus de 150 signataires, dont des pédiatres et des intervenants communautaires, dénoncent la fin imminente de l'aide financière aux familles demandeuses d'asile ayant un enfant handicapé. Cette allocation de 413 $ par mois, qui prendra fin le 1er mars, constitue souvent l'unique soutien pour couvrir les frais de transport, d'ergothérapie ou de matériel spécialisé. Les signataires soulignent que ces familles n'ont accès à aucune autre allocation familiale, qu'elle soit provinciale ou fédérale. Sans ce supplément, le revenu de certaines familles monoparentales passerait à 1 090 $ par mois via l'aide sociale. La lettre ouverte publiée hier rassemble des appuis de 28 organismes et de dizaines de professionnels de la santé, incluant des médecins de l'hôpital de Montréal pour enfants. Et enfin, dans le Devoir, à l'approche de la période des impôts, l'Office des personnes handicapées du Québec lance une campagne de sensibilisation majeure. Selon l'organisme, des centaines de millions de dollars en mesures fiscales échappent chaque année aux citoyens en situation de handicap. Au Québec, moins d'une personne sur deux connaîtrait les avantages financiers auxquels elle a droit. L'Office précise qu'une demande de rétroaction fiscale peut, dans certains cas, permettre de récupérer des sommes allant de 2 000 à 10 000 $. Le site québec.ca propose d'ailleurs un test d'admissibilité en ligne pour identifier les crédits d'impôt et les remboursements de taxes disponibles.
Ça fait 20 ans que je suis là. Si ça ferme, je sais pas ce qu'on va devenir. Ça fait des mois qu'on nous dit rien, on nous cache tout, faut qu'on endure. Mais ça se fait pas, traiter le monde comme ça. Je vois plus la route, j'écoute tout ce qu'on raconte. Des histoires qui tiennent pas de bout, qui viennent toujours du bout du monde. Encore une belle fin de semaine, avant qu'on nous apprenne, ça ferme. Encore une belle fin de semaine, faites comme s'il y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine, dans la mire du mauvais temps. Tout près de l'usine, il y a la rivière, rempli de promesses pour toi ma belle, pour les enfants, les rêves de chaque instant. Je sais plus ce qui nous attend, si le bonheur nous comprend. Tout ce qu'on a bâti, pour nous ça n'a pas de prix. J'ai fait le tour du village, du premier rang jusqu'au dernier. Devant le paysage, j'ai pas pu continuer. Encore une belle fin de semaine, avant qu'on nous apprenne, ça ferme. Encore une belle fin de semaine, faites comme s'il n'y avait pas de problème. Encore une belle fin de semaine, dans la mire du mauvais temps. Petite musique pour patienter, pendant que monte la grogne, je sens la terre bouger. Puis dans le journal, c'est à peine si on en parle, c'est un coin de pays trop petit, trop loin. Sur la carte, un point parmi tant d'autres. Encore une belle fin de semaine, avant qu'on nous apprenne, ça ferme. Encore une belle fin de semaine, belle comme si pas de problème. Encore une belle fin de semaine, dans l'avenir du mauvais temps. Dans l'avenir du mauvais temps.
La chanson L'usine du groupe Caen.
Je vous ai dit tantôt qu'il restait 124 jours avant le début officiel de l'été, qui est le 21 juin. Mais il y a trois étés au Canada. Trois étés. Il y a aussi l'été météo, c'est-à-dire l'été où on considère que c'est assez chaud, c'est plus chaud. Ça, c'est l'été qu'on détermine à partir du 1er juin, mais qui va se terminer autour du 1er septembre, hein, parce que cet été-là est un peu différent. C'est pas juste l'été du solstice. Oui, c'est ça. Par contre, il y a aussi l'été qu'on appelle l'été solaire. Bien, l'été solaire, il commence à la mi-mai. Alors, à vous de choisir lequel été vous préférez. Daniel, on est en été d'amour. Hein? C'est
oui.
Chaud, l'amour, donc c'est chaud. C'est ça.
Ah,
l'été,
oui, bon,
le quatrième été, l'été de l'amour. Allons-y.
Ben oui, puis souvent au printemps, ben, on voit les... on a le goût d'amour. Alors, mais là, ce matin, je vous parle justement des fameux sites de rencontres. Et puis, j'ai glané l'information dans deux articles, dont un dans Sciences humaines de novembre 2025. Pour vous rappeler que ces sites-là, comme Tinder, si on pense à celui-là qu'on connaît bien, c'est né aux États-Unis au milieu des années 90, et puis ça compte désormais des milliers et des dizaines de millions d'utilisateurs, autant vous le dire. Y a les personnes qui se définissent comme gays ou lesbiennes restent les plus grandes utilisatrices de ces plateformes, soit 80%. Et ça, bien devant les personnes hétérosexuelles, soit 54%. Et puis juste en France, en 2023, par jour, 2,3 millions de visites uniques par jour en 2023 en France seulement. Fait que ça, imaginez donc, c'est énorme. C'est qu'il y a aussi le pouvoir des algorithmes dans ces fameux sites-là, dont Tinder, entre autres. C'est qu'on confie notre sort à des algorithmes qui trient les individus et les ressources, justement, pour former des paires selon un schéma très singulier. N'oubliez pas que c'est un marché, tout ça. Hein?
Faire de l'argent, c'est clair.
C'est très, très un marché, on s'imagine, là, bon. Mais c'est le tri est réalisé à partir de données personnelles, dont l'âge, la localisation. Il y a aussi des photos, des centres d'intérêt à partir desquels sont calculées, justement, des chances de rapprochement ou d'éloignement. Et justement, dans ce genre de système-là, l'application tire principalement de l'argent. L'argent rentre en ligne de compte à partir des comptes premium qui permettent de gagner en visibilité et de favoriser le match. Et d'ailleurs, on peut les algorithmes peuvent vous trier aussi selon votre groupe social. Et si vous payez plus cher, ben, vous avez la chance d'être plus visible sur le marché en question. Dans cet article, on parle aussi à quel moment de la vie on s'inscrit justement sur des sites. Ben, c'est surtout recherché à deux moments de la vie sociale, soit dans le temps de la jeunesse, durant lequel le marivaudage sexuel est valorisé. Puis, il y a un deuxième moment, c'est celui pour la remise en couple après une rupture. Donc, c'est les deux moments cruciaux. Et juste pour compléter cet article dans Sciences humaines, je vous propose une annonce qui est parue en 1878, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, ces sites-là. Mm-hmm. Alors, ici, c'est un jeune homme, c'est un célibataire qui a 34 ans, fils unique, fabricant de tissus et propriétaire, toujours en province, en France. Il a une dot de 40 000 francs. Son espérance est d'accumuler 140 000 francs. Il désire s'unir à une demoiselle ou une veuve sans enfant, bien élevée, une femme d'intérieur, âge et situation en rapport. Imaginez-vous, on est loin de tout ça.
Et propre de sa personne.
Puis en 2025, toujours, on nous compare cette annonce avec une annonce en 2025. 40 ans, explosif au pieu et mari idéal pour une relation à construire sereinement et aussi open aux amitiés. C'est ce qui a paru, ce qu'on peut lire aujourd'hui. On a changé de registre, hein, n'est-ce pas?
Ah, mon Dieu. Oui,
tout
oui,
à
oui.
fait. Tout
ben,
à
écoute, fait. Moi, ces algorithmes-là, ça me fait bien rire parce que j'ai déjà été sur des applications comme ça. J'ai déjà payé même, et c'est drôle, ça me référait toujours les mêmes maudits losers à chaque fois.
Pas de bon sens.
Je pense que je suis un aimant pour les losers.
Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Puis dans le magazine, vous dites que c'est un sujet qui revient tout le temps parce qu'on a toujours, on a le goût d'aimer quelqu'un, d'être bien entouré, d'être avoir un compagnon, une compagne de vie. Puis moi, j'entends souvent dans mon sillage des gens qui veulent trouver l'amour à 60 ans à partir de justement d'Internet. Et puis, dans le magazine psychologique de janvier 2026, on vous propose des clés, justement, pour mousser votre candidature. Hein. Alors, parce qu'on dit qu'en France, et puis on pourrait mettre les mêmes chiffres ici, une personne de plus de 65 ans sur trois vit seule. Et les plus de 60 ans sont trois fois plus nombreux à divorcer qu'il y a 30 ans. Donc, c'est de nouvelles réalités. Donc, c'est beaucoup de potentiel, de candidats potentiels pour ces sites-là. Moi, je mentionne Tinder, mais vous en connaissez sûrement plusieurs. Il faut apprendre à apprivoiser ces sites-là et la façon d'aborder. Tout d'abord, dans les clés, on vous propose les clés. Restez honnête, c'est-à-dire, il est tentant, c'est sûr, d'embellir encore beaucoup sa réalité. De se créer en ligne une sorte de version idéale de soi. Mais le principal problème de ces sites-là, c'est le mensonge. Hein. On veut paraître bien, puis des fois, on en rajoute un petit peu trop. Il y a beaucoup, par exemple, il y a des hommes de 60 ans qui vont mentir sur leur âge dans l'espoir de séduire une femme beaucoup plus jeune, mais ça peut créer de la défiance et ça peut mener à rien de bon non plus, hein, parce qu'il y a des femmes qui ont déjà raconté qu'elles avaient rendez-vous avec cette personne-là qui trichait sur son âge et qu'ils avaient deux fois moins... Quand ils les voyaient, elles disaient « Wow! C'est différent de la photo. Deux fois moins de cheveux. » Et puis, mettons qu'il a l'air un petit peu plus vieux. Fait que donc, ça, c'est pas très agréable. Donc, elles évitent le rendez-vous, elles virent de bord puis retournent à la maison. Donc, il faut éviter de mentir. Aussi, comme on dit, quand on affiche des photos, c'est éviter de montrer, comme ils disent dans l'article, un mec en débardeur à 60 balais, ben, ce n'est pas glam, tu sais, c'est pas top. Et puis, éviter les lunettes de soleil, quand on a un petit air Top Gun, ça tout à fait ordinaire. Puis aussi, ben quand on prend un autoportrait, un selfie dans le miroir de sa salle de bain, ben essayez que ce soit c'est pas très vendeur non plus.
Surtout s'il y a des taches dans le miroir.
Ouais, c'est ça, il y a n'importe quoi. C'est ça. Il faut rédiger quelques lignes de présentation pour justement accrocher quelqu'un, accrocher une personne ou titiller un peu. Parler de soi, de ce qui nous anime et nous touche et de nos projet, ce serait un conseil. Envoyer de la justesse, de la vérité, de la sensibilité, ça donne une chance d'avoir en face de quelqu'un qui va raisonner avec ça et qui va vous aborder avec courtoisie et élégance aussi. Essentiel de se poser en amont des questions qui nous aideront à être plus clairs avec nous-mêmes, c'est-à-dire, est-ce que je veux vivre à deux ou bien seul chez moi? Nouer une véritable relation ou juste trouver de la compagnie, on ne sait pas, hein? Mm-hmm. Voyager en couple ou garder beaucoup de temps pour mes petits-enfants, habiter en ville ou à la campagne? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser avant de s'inscrire dans ces sites-là. Fait que donc, on est précis. Et vérifier aussi la compatibilité concernant la manière dont on souhaite vieillir aussi. Parce qu'on parle des gens de 60 ans et plus, mais quand même, ça peut être, on peut appliquer ça pour des gens un peu plus jeunes aussi. Il y a aussi l'importance de se rencontrer rapidement, hein, pour ne pas se laisser le temps de trop idéaliser ce partenaire en question. On peut aussi avoir un court appel téléphonique pour avoir une idée un petit peu pour vérifier les points fondamentaux et ce avant de se rencontrer. Il faut aussi une autre clé, c'est prendre le temps de vérifier les compatibilités aussi. Il y a des détails, l'âge, la distance, c'est à 300 km de cette personne-là, le niveau d'éducation, les centres d'intérêt. Beaucoup de gens sont là pour discuter, mais n'ont pas vraiment envie aussi ni l'énergie de s'investir dans une vraie relation. Se rencontrer rapidement permet donc de faire le tri sans perdre de temps.
Tout à fait. Tout à fait.
Puis lorsqu'on a été seul pendant 10-15 ans ou même davantage, bien, c'est essentiel de se réhabituer rapidement à des rendez-vous. Puis ça aussi, ça demande un effort conscient de sortir de sa solitude et de sa zone de confort. Et il ne faut pas se limiter aux sites et applis, mais de s'inscrire aussi à des activités extérieures, sportives, etc. Donc ça peut aider. Être au clair sur ses critères, c'est bien important. S'y retrouver dans les milliers de profils, il faut savoir le type de personne qu'on recherche, mais aussi se laisser la possibilité d'être surpris.
Ouais.
Hein? Ça, c'est aussi intéressant. Et à 60 ans, surtout si on a connu une union de plusieurs décennies qui s'est mal terminée, ben, les sites nous confrontent fréquemment à notre peur de souffrir à nouveau. Ouais. Ça, je l'entends des personnes autour de moi. Et les rencontres en ligne viennent aussi nous titiller de manière assez utile sur nos insécurités et nos zones d'ombre, initiant des questionnements qui seront féconds, qui nous aident souvent à avancer. Et c'est pas si négatif que ça.
Oui, mais on va devoir s'arrêter là-dessus parce que, en fait, moi, je veux dire, les zones d'ombre, il y a beaucoup d'ombre dans les applications de rencontres parce qu'il y a beaucoup de fantomisation. Mmh. Mais ça, on pourra en reparler à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
C'est la fin que l'on verra. Tous ces choix.
Laura Fabian et sa chanson « Je veux danser ».
Et là, je veux parler de nouvelles insolites avec Louis de Bernis. Alors, je peux le nommer, je ne veux pas,
oui, se couper. Oui, oui, allons-y.
L'indice « chasse d'eau ».
Ben oui, je ne connaissais pas, moi. J'ai découvert ça et c'est pour ça que je vous parle, allez, une dernière fois du Super Bowl pour cette année.
On ne peut pas en parler souvent, ça ne me dérange pas.
Bon, très bien. Alors, parlons cette édition qui a beaucoup défrayé la chronique avec Bad Bunny, l'artiste portoricain qui était là à la mi-temps du Super Bowl. Eh bien, je vous donne peut-être le dernier argument pour vous prouver une bonne fois pour toutes que son passage a été...
Au-delà des 150 quelques millions qu'il a regardé, là.
Ouais. Exactement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est en quelques minutes, ça n'a pas duré non plus une heure, à la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny a montré comment un événement culturel peut suspendre le temps, figer le temps quasi littéralement, puis relancer d'un seul mouvement la vie quotidienne d'une mégapole entière. On parle ici de New York. Parce que pendant 12 minutes, très exactement, la ville de New York a retenu sa respiration, et pas seulement sa respiration. La mi-temps du Super Bowl, assurée donc par Bad Bunny, n'a pas seulement battu des records d'audience comme vous mentionniez, elle a aussi eu un effet très concret sur la ville jusque dans ses canalisations. Selon des données publiées au cours de la semaine passée par l'agence municipale chargée de l'eau potable et des égouts de la ville, NYC Water, la consommation a chuté brutalement pendant le show de l'artiste portoricain. Les 5 boroughs que sont Manhattan, Brooklyn, le Queens, Bronx et Staten Island se sont figés un peu comme si tout New York avait mis sa vie quotidienne sur pause. Puis, à la fin de son show, tout est reparti d'un coup, d'un seul coup. Pendant les 15 minutes suivantes, un pic spectaculaire a été enregistré, l'équivalent, tenez-vous bien, de 761 719 chasses d'eau ont été tirées quasi simultanément à travers la ville. Une donnée tout à fait insolite, rapidement devenue virale et qui s'est imposée comme un indicateur très parlant sur l'attention collective portée à l'événement. Ce pic est un fait assez connu aux États-Unis, porte même un nom que je ne connaissais pas, le Super Flush. Voilà, vous connaissez désormais ce phénomène, ouais. Comme moi. Il est observé depuis quelques décennies lors des grands rendez-vous télévisés, du Super Bowl en particulier, mais aussi des Jeux Olympiques. Selon le quotidien The Athletic, dès 1984 à Salt Lake City, une rupture de canalisation survenue pendant la mi-temps avait déjà attiré l'attention sur ces usages synchronisés, contribuant à faire entrer le Super Flush dans la mythologie du Super Bowl. Rien d'inquiétant pour les réseaux de canalisation, c'est un bon test en fait. Ceux-ci sont conçus pour absorber des variations parfois extrêmes, mais c'est un signal très clair de la puissance d'un tel événement capable d'aligner les comportements d'une mégapole de millions de personnes en même temps. Pendant le show, donc, personne ne se lève, on est rivé face à l'écran. Dès qu'il se termine, tout le monde va à ses occupations, et la première d'entre elles étant visiblement d'aller à la salle de bain. La performance donc de Bad Bunny a été suivie, vous le disiez, par plus de 130 millions de téléspectateurs dans le monde, un record absolu pour une mi-temps du Super Bowl dépassant celle de Kendrick Lamar l'an dernier. Et l'effet ne s'est pas arrêté aux toilettes dont on parle aujourd'hui, puisque toutes les plateformes d'écoute de musique ont enregistré également des pics depuis une semaine, des pics d'écoute pour les chansons de l'artiste. Tout va donc bien pour lui.
Mais sur les plateformes d'écoute, on peut mettre ça sur pause.
Oui.
Et pas attendre à la fin. Bon, et on l'a fait encore pour la troisième année consécutive. La meilleure poutine internationale hors Canada se déguste où?
En France, à Caen. Oui, on précise bien, on ne parle pas du Canada ici, ce sont tous les autres pays, on ne va pas créer de polémique ce matin. On parle du prix international. En dehors du Canada, où se trouve-t-elle? Ils l'ont fait, comme ils le disent très fièrement. C'est notre troisième victoire consécutive, mais ça me touche, dit le propriétaire, toujours autant, parce que c'est le choix des clients. Ça montre que la qualité des produits et le fait maison sont plébiscités par le public, a déclaré Victor Rouxel, qui est le fondateur et gérant des Poutineurs, c'est le nom de cette place, restaurant ouvert en 2022, avenue de la Libération à Caen. Ils ont déjà été primés en 2024-2025. Ils proposent uniquement des poutines. Et ils se sont donc encore distingués pour une troisième année consécutive. C'était un événement organisé en début de mois, la Poutine Week. Il y avait aussi également des participants ici au Canada, partout à Montréal, dans toutes les villes du Québec. C'était la première semaine de septembre. Cette année, la poutine gagnante donc à Caen est la turbe. C'est une recette composée de frites maison, bien sûr, avec des pommes de terre produites en Normandie, en France. Et la suite de la recette est pour le moins originale. C'est un peu une fusion entre la France et le Mexique, si on veut, puisqu'il y a ensuite une sauce mole, c'est donc une sauce mexicaine à base de tomates, d'épices et d'un peu de chocolat. Ça, l'ingrédient est tout à fait original. Il y a également des filets de poulet marinés, des oignons et des toppings de cactus flambés à la tequila. Voilà pour le voyage entre France et Mexique. Cette bonne nouvelle n'est pas la seule pour les poutineurs. Devant leur succès, ils vont ouvrir un second restaurant à Caen. Donc si jamais vous êtes de passage en France et que vous voulez goûter la meilleure poutine hors Canada, on reprécise bien, vous pouvez vous rendre en Normandie et soit chez les poutineurs, ils auront désormais deux restaurants dans la ville de Caen.
On pourra donc manger de la bonne poutine en regardant le Super Bowl. Mais moi, une petite question que je me pose toujours maintenant, parce que les gens regardent leurs émissions, regardent tout ça sur le téléphone. On peut pas amener le téléphone à la salle de bain, non?
Et c'est vrai qu'il y aurait ça, mais on le voit en petit écran. Les gens veulent apprécier le l'écran géant. Ouais,
c'est vrai. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Fou comme le temps file, combien de temps pas est-on passé? Difficile de suivre le fil lorsque tu te sens dépassé. Comme si la vie t'envoie des signes, qu'elle sera pas si facile. Faut croire que la douleur désigne ce que tu vas devenir. Combien de fois j'ai perdu pied, mais fallait passer par là. L'impression de se faire dire merci, bonsoir et bon débarras. Tellement de pain sur les épaules jusqu'à me briser le dos. Le soleil brille maintenant, mais fallait perdre le contrôle. Déplacer des montagnes, voir la vie vue d'en haut. C'est comme trinquer le champagne pour en flatter nos égos. Le parcours n'est pas facile, parfois on voudrait tout lâcher. C'est que la route parfois nous tire à vouloir tout casser. Comme si le chemin était tracé, comme si le vent tournait plus. Comme si la fin était gravée, mais t'as seulement survécu. T'as fait le point sur ta vie, pas une histoire de karma. T'as pas eu le choix de t'en sortir, mais tu devais passer par là.
La chanson « Passer par là » de Kalem.
Eh bien, nous recevons maintenant un frère et une sœur qui transforment un héritage colossal en un geste artistique d'une rare intensité. Imaginez hériter de 200 boîtes de souvenirs appartenant à votre père 10 ans après son départ. Que garder, que laisser derrière? C'est le point de départ de cette pièce de théâtre musicale « Recordar, c'est vivre à nouveau ». Après avoir touché les publics en Belgique et au Pérou, l'œuvre arrive enfin à Montréal au Théâtre Outremont le 21 février prochain. Bonjour, buenos dias, David et Maricel Mendes-Yepes. C'est ça?
Oui, buenos días.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors, on vous rejoint où aujourd'hui?
On est à Québec
À Québec,
pour
oh, ben.
l'événement Rigaud.
D'accord. Ben, écoutez, Maricelle et David, quel a été le déclic précis qui vous a fait passer d'un simple tri familial en des boîtes avec plein de souvenirs à la création d'un spectacle de théâtre musical?
Bon, d'abord, il fallait trouver un objectif parce qu'il y avait tellement de boîtes, comme vous avez dit, que pour se motiver, l'envie de faire un spectacle a jailli. Et puis c'est aussi parce que le théâtre permet beaucoup de choses, permet tant de la musique que du récit, que des arts visuels, que de la danse, que du chant. Enfin, tout est possible au théâtre. Et donc c'était une manière de transformer symboliquement cet héritage matériel en un héritage immatériel.
Marissa, qu'est-ce qui t'a motivé, toi?
Ben moi, j'ai deux enfants, Lionel et Esteban, et ce qui m'a motivée surtout, c'est d'essayer de pouvoir leur transmettre quelque chose de ce qu'était notre père. Et je trouvais que les boîtes, le contenu des boîtes ne représentait pas, c'était immobile, c'était figé, ne représentait pas en fait vraiment qui était notre père. On a essayé de faire ça, ses rêves, c'est. Ses rêves, c'est des illusions peut-être. C'était une manière de transmettre à mes enfants.
Alors, comment la double culture, parce que quand même, ce spectacle, et vous aussi, ce va du français à l'espagnol, comment ça habite la scène dans tout ce projet?
Ben, en fait, le spectacle, il est un peu comme nous. Et donc, il est principalement en français, mais aussi avec des parties en espagnol. On entend les voix de nos parents qui parlent en espagnol le plus souvent. Et il est plein de musique latino-américaine. Il est plein aussi d'un héritage quand même de racines latino-américaines et en même temps d'un point de vue de personnes qui ont grandi en Belgique. Et donc voilà.
Je vais revenir à la musique, mais je vais rester aussi dans ce qu'on appelle le domaine de l'autofiction, parce que c'est un peu ça aussi ce que vous présentez. Qu'est-ce que de jouer vos propres rôles à tout chacun et de manipuler vos propres souvenirs familiaux change par rapport à une pièce de théâtre que je dirais peut-être plus classique?
Ben, nous, on n'appelle pas trop ça l'autofiction, même si c'est clairement il y a des liens, mais on parle plutôt de théâtre testimonial en
Ah,
espagnol.
d'accord.
Théâtre testimonial qui serait du théâtre témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. On ne fictionnalise. C'est-à-dire, à partir du moment où on écrit une pièce, il y a toujours de la fiction dans la mise en scène, dans l'organisation. Mais fondamentalement, ce qu'on raconte, tout ce qu'on raconte est vrai. Et donc, même si dans l'autofiction, je pense qu'il y a aussi cette réalité-là, mais puisqu'il y a le mot fiction dans l'autofiction, parfois ça nous fait un peu tiquer. Donc, c'est plutôt du théâtre témoignage ou du théâtre du réel qui part de faits réels et d'expériences réelles de vie pour aboutir à une sorte de geste politique. Parce que je pense que ressasser le passé, essayer de transformer des caisses, transformer des grandes questions, c'est toujours pour éclairer le quotidien et pour éclairer le futur et le présent. Et donc, on a toujours l'espoir avec la pièce de pouvoir aussi aboutir à une forme de geste politique qui éclaire, qui questionne, qui transforme le présent.
Bien justement, votre père était une figure d'engagement politique. Dans quelle mesure, donc, son héritage militant influence-t-il la trame narrative de la pièce?
Mais c'est vraiment présent dans c'est vraiment on s'est rendu compte que c'est vraiment le fil. En fait, nous, on a exploré le contenu des boîtes et c'est apparu dans la transformation comme vraiment un fil très important parce que c'est quelque chose qu'il nous a transmis en le voulant, sans le vouloir, on sait pas, mais c'est un des héritages qu'on a, un des éléments dont on a hérité et qui prend quand même une place importante dans nos vies. Nous, on se rendait pas compte de la place que cet engagement prenait dans nos vies à nous. On avait l'impression que c'était nos parents qui étaient des personnes très engagées. Et au fur et à mesure de la conception de la pièce, on s'est rendu compte qu'en fait, ils nous ont transmis quelque chose de ça.
Oui, je pense qu'il y avait, il y avait. Est-ce que, excuse-moi, est-ce que David, vous vouliez répondre? J'ai entendu un bruit. Oh,
Non, non,
non,
non,
c'est
non,
bon.
je soutiens tout à fait ce que dit Maricelle et c'était aussi la question de, encore une fois, je pense que les grandes questions qu'on se pose quand on veut transformer la société, elles sont pas très différentes dans les années 60, 70, 80 au Pérou ou en Belgique que celles qu'on se pose aujourd'hui. Malheureusement, les défis face au conservatisme et au repli sur soi sont tellement grands que quelque part, ça rappelle aussi la période que nos parents ont vécue sous dictature et terrorisme au Pérou.
Oui, parlons justement, ce qu'on peut juste, par une petite parenthèse, là, on parle de quelle époque et de qui à ce moment-là au Pérou?
On parle de nos parents étaient des intellectuels progressistes dans les années 70-80 au Pérou. Ils sont venus faire leur doctorat en Belgique à partir de 86. Et on parle de leur engagement politique, je dirais, à partir du début des années 70. Et le Pérou, malheureusement, à partir des années 80, va vivre une période terrible qui va être malheureusement tant gouvernée par le terrorisme que par la dictature.
Et c'est donc vous tracez des parallèles aussi avec ce qu'on vit présentement, parce qu'il y a comme un retour du balancier, on dirait. Hein?
Oui, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, quand on a écrit la pièce avec Maricel et Ilias Metioui, on ne se rendait pas compte à quel point la pièce était contemporaine. Et vu l'évolution du monde ces derniers mois, elle l'est encore plus. Et je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on a la chance de venir aujourd'hui au Québec et de continuer la tournée en Amérique latine après. C'est parce qu'en fait, elle fait écho à des questions du présent que nous-mêmes, on ne s'était pas vraiment posées. On a été surpris nous-mêmes par le théâtre. Et c'est ça qui est très beau, c'est que chaque soir, on est re-questionné par, tant par le public que par la pièce nous-mêmes.
Justement, puisque vous parlez du public, vous avez joué déjà donc en Europe et en Amérique latine, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une différence dans la réception du public?
C'est intéressant parce que donc la pièce a été créée en 2024 et à ce moment est jouée principalement en Belgique pendant la première année. Et là, les retours du public qu'on avait étaient principalement liés à leur histoire personnelle, leur histoire de deuil, les histoires d'héritage, de famille aussi. Et quand on a joué au Pérou début 2025, on a eu plutôt des retours de l'ordre de la politique, des personnes qui nous parlaient de leur vécu de ces années-là, des personnes qui nous parlaient de la situation politique à ce moment-là au Pérou. Et puis quand on a rejoué la pièce de théâtre en Belgique, donc en 2025, là on a eu des retours politiques comme au Pérou avant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vu que le contexte a changé, ben peut-être que la pièce de théâtre touche différemment les personnes actuellement par rapport à l'année passée, en fait. Enfin il y a 2 ans.
On ressent beaucoup là dans la culture actuelle, particulièrement avec l'influence des courants. États-Unien, si vous me permettez, vous trompez, c'est une urgence de la performance. Il faut que l'art s'exprime, il faut... Mais j'ai l'impression que votre spectacle semble plutôt inviter à une forme d'introspection. Est-ce que c'est une sorte de résistance, une forme de résistance volontaire de votre part?
C'est une très bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre l'introspection et la résistance, entre l'engagement politique et le questionnement intérieur. Et la pièce, comme vous l'avez dit, elle marche vraiment sur 2 jambes. D'un côté, l'intimité, les questionnements plus profonds, intérieurs, existentiels, et de l'autre côté, la place qu'on occupe dans le monde. Et je pense que pour occuper le monde sereinement, et même pour l'occuper sereinement en luttant, vu les défis que vous mentionniez, on a besoin de créer un espace d'introspection qui est exigeant et bienveillant. Donc, dans la pièce, on se pose des questions à nous-mêmes. Quand moi j'interroge mon père, fondamentalement, je me pose la question à moi. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et je pense que c'est ce mélange d'exigence et de bienveillance qu'on a essayé de partager avec le public. Parce que vivre en paix avec soi, c'est la première phase avant de pouvoir vivre en paix en société. Et comme vous dites, je suis content que vous ayez souligné ça. C'est vrai que c'est une pièce qui est assez engagée, mais qui ne perd jamais le fil du questionnement intérieur avant tout.
Et c'est aussi, ça naît du fait qu'on est vraiment frères et sœurs, du coup, sur scène, et il y a une intimité qui se crée aussi dans la coécriture de ce texte, de l'avoir écrit ensemble avec notre metteur en scène, Ilias Metioui, également, mais aussi de nous voir ensemble, en fait. Il y a une intimité, on laisse voir une partie intime de notre vie qui est notre famille, en fait.
La question qui me vient en tête spontanément, on a parfois des conflits pas très résolus avec nos parents. Et là, ils partent, et puis tout à coup, ce genre d'exercice que vous avez fait, est-ce que ça vous a permis de faire la paix avec certains aspects de vos relations avec votre père?
Je pense que oui, mais je dis toujours que pour moi, le théâtre n'est pas, c'est pas une thérapie. C'est-à-dire, je déconseillerais aux gens de se lancer dans une pièce de théâtre juste après un deuil ou après une tragédie. Il faut laisser passer du temps. Et le temps, c'est vraiment le mot pour nous, parce qu'en fait, on a créé la pièce quasi jour pour jour, 10 ans après sa mort.
D'accord.
Et c'est comme si les 10 ans avaient été nécessaires pour pouvoir le faire. Ça permet du recul, ça permet de l'humour. Et ça ne remplace pas la thérapie. J'encourage aussi les personnes qui vivent des disparitions ou des tragédies de pouvoir aussi faire de la thérapie. Toutefois, je pense que l'objet théâtral existe. Il peut avoir une dimension thérapeutique, mais alors collective. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, chaque soir que je joue la pièce, j'essaie de réinterroger mon père et j'essaie de le comprendre un peu plus et donc de vivre un peu plus en paix avec l'absence de réponse pour certaines questions.
Un effet un peu catharsique finalement dans tout ça là.
Tout à fait.
Ouais. C'est la question aussi qu'on interroge dans la pièce de théâtre et qui est réelle, c'est aussi dans la réalité, c'est comment vivre avec le silence en fait, comment vivre avec ce qu'on ne sait pas, les réponses qu'on n'a pas. Nos parents ont une histoire de migration. Moi, je suis née au Pérou, mais j'arrivais en Belgique quand j'étais toute petite. Et donc, il y a une partie de notre histoire familiale à laquelle on n'a pas accès. On avait accès via notre père, on a accès encore via notre mère. Mais en perdant un de nos deux parents, en fait, on perd un accès à une partie de notre histoire familiale. Et la pièce de théâtre permet aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on vit avec ce silence et comment est-ce que ce silence peut faire partie de notre vie et que ce soit apaisé.
Comment votre mère, justement, réagit-elle à cette pièce?
Donc notre mère a participé à tout le processus de recherche. Donc, on l'a interviewée au départ juste pour mieux comprendre le contexte, la situation et tout ça. Ensuite, on lui a lu plusieurs extraits de la pièce de théâtre avant qu'elle soit terminée. Au début, c'était difficile pour elle. Elle a pu nous dire qu'elle aurait préféré qu'on n'ouvre pas certaines boîtes, qu'en fait, pour elle, pour pouvoir vivre, elle a eu besoin de garder des boîtes fermées. Et de plus, elle nous a dit, moi, mes traumas, je les enferme dans des boîtes que je n'ouvre plus jamais. Et en même temps, après, au fur et à mesure de l'écriture, la première fois qu'on a joué la pièce de théâtre, c'était pour elle. Avant la générale, on a fait une représentation pour elle. Son point de vue a changé. On a aussi inclus des morceaux d'entrevue avec elle dans la pièce de théâtre, ce qui n'était pas prévu au départ. Et donc, il y a aussi un peu de sa voix qui est représentée dans le spectacle. Et maintenant, elle adore. Elle est venue une dizaine de fois voir la pièce de théâtre, je pense. Je pense qu'elle est fière et qu'elle est heureuse d'avoir traversé tout ça. Donc, elle a pu nous dire que finalement, elle était heureuse qu'on l'ait fait et que ça lui a permis de, elle, retraverser peut-être repasser au travers d'événements qui lui ont provoqué de la souffrance, mais que maintenant, elle est plus en paix avec ça.
Eh bien, David et Maricel Mendes-Yepes, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien à l'émission. Puis je rappelle que Recordar, c'est vivre à nouveau. Ça sera présenté le 21 février prochain au Théâtre Outremont ici à Montréal. Merci beaucoup.
Merci à vous. Beaucoup. Merci, à bientôt.
Dans le Journal de Québec du 14 février, dans la capitale nationale, l'accès aux soins psychiatriques traverse une zone de turbulence majeure. Alors que la demande de services en santé mentale a bondi de 80 % depuis la pandémie, le CIUS régional a procédé à la fermeture de 3 points de service spécialisés depuis mars dernier, dont le centre 388 et l'hôpital de jour du Faubourg Saint-Jean. L'inquiétude grandit également autour du transfert de l'urgence psychiatrique de l'Enfant Jésus vers l'hôpital Saint-François d'Assise, prévu en 2027. Bien que l'échéance approche, les travaux de construction du nouveau bâtiment de 3 étages n'ont toujours pas débuté. Actuellement, le guichet unique de la région doit composer avec cette réduction de l'offre de soins spécialisés, alors que les besoins cliniques sont en forte croissance. We'll be right back. rappel de la météo, il va faire plus chaud dans l'est du pays. On va dépasser même le point de congélation dans plusieurs endroits, notamment dans le sud du Québec, l'est et le sud ontarien. Et ben, c'est du soleil, passage nuageux. Peut-être des précipitations ce soir un peu partout dans l'est du pays, de la pluie ou de la neige selon les endroits. Dans l'ouest, ben, c'est le retour de l'hiver là-bas avec des chutes de neige importantes et de la poudrerie dans les prairies. Et c'est la première neige hein, de l'hiver cette année, à Vancouver. On continue à parler de théâtre. On reçoit Natacha Canapé-Fontaine après la pause et aussi Céleste Godin. On va parler de deux pièces de théâtre, donc et Boué. À tout de suite.
Vous pouvez roter au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Que sont les lits entre Paris et Rome, mais moi je rentrerai.
Même si je suis entouré, tu hantes mes pensées. Je me sens toujours seule, je voudrais rentrer à tes côtés.
And I've been keeping all the that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you?
Roxane Bruno et Michael Bublé qui chantaient la chanson « Home ».
Quoi, Samuel?
Chère Natacha.
Je t'écris.
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 Je t'écris depuis ma chambre à Port-au-Prince.
Je t'écris depuis ma chambre à Montréal.
Et c'est un extrait donc qu'on vient d'entendre de la pièce Wash, présentée au théâtre aux Écuries à Montréal. Une rencontre artistique d'une rare intensité. Je suis allé la voir justement lors de la première ce week-end, oui, justement. Alors imaginez un pont jeté entre la côte nord du Québec et les rues de Port-au-Prince. C'est ce que propose donc la pièce Wash, une œuvre née d'une amitié de 10 ans entre l'écrivaine Innu Natacha Canapé-Fontaine et le créateur haïtien Samuel Suffren. Et on reçoit donc Natacha Canapé-Fontaine. Kwe, bonjour Natacha.
Quoi, Denis Martin, ça va bien?
Oui, ça va bien. Je suis très heureux d'avoir cette chance de jaser avec toi. Je t'ai vu lors de la première, c'était vendredi, si je ne me trompe pas, mais je voyais que tu étais très anxieuse. Hein, je vais la laisser tranquille.
Oui, c'est vrai, je l'étais.
Oui, mais c'est correct, hein, c'est correct. Écoute, tu as rencontré... Tu me permets, je vais te tutoyer parce que je me sens tellement près de toi.
Oui.
Tu as rencontré donc Samuel Suffren il y a 10 ans à Port-au-Prince lors du festival Quatre Chemins. Comment une simple amitié s'est transformée en un échange épistolaire qui devient aujourd'hui une pièce de théâtre?
C'est vrai que c'est une bonne question. Puis en même temps, je me dis, après justement ces derniers mois où on a passé énormément de temps ensemble avec toute l'équipe, puis aussi de par exemple de faire en sorte que nos comédiens haïtiens puissent apprendre à connaître nos comédiens autochtones, parce que en quelque part on est deux cultures qui nous rencontrons rarement. Puis quand on est dans la même salle, mais c'est comme de dire ok, il y a ça qui peut se passer, il y a ça qu'on a envie de parler, il y a telle chose qu'on peut aborder, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ça. Et comme Samuel et moi, donc on est amis depuis longtemps, à quelque part dans la pièce, il parle de son groupe d'amis à Port-au-Prince. Je les connais, je les ai connus, je sais où ils sont aujourd'hui. Je veux dire, il y a 10 ans, il y avait quelque chose qui se passait, puis je l'ai vu. Et je m'étais dit, quand j'étais à Port-au-Prince, ça m'inspirait pour quand je revenais chez moi ici, d'essayer, par exemple, d'avoir le même feu, d'apporter ça quelque part à ma façon aussi. Puis en même temps, je pense que surtout via les réseaux sociaux, on s'est vu. On s'est rarement parlé depuis 10 ans, en fait, mais on s'est vu, on s'est regardé continuer nos trajectoires respectives, mais parallèles, mm-hmm. dans un sens où aujourd'hui, maintenant, il est documentariste, il est cinéaste, il lance des courts-métrages à chaque année, je veux dire, et de mon côté, bon, j'ai fait quelques livres, j'ai étudié beaucoup ces questions-là, justement, interculturelles, mais aussi sur la décolonialité. Et on se retrouve, c'est son invitation, en fait. Il avait reçu une invitation à venir travailler au Québec, puis il m'a proposé de travailler avec lui sur une pièce de théâtre. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait aborder exactement, on ne savait pas qu'est-ce qui allait ressortir de ça, mais entre-temps, depuis nos premières conversations, beaucoup de choses se sont passées à Port-au-Prince, puis il a eu envie de m'en parler. Et pour moi, c'était comme enfin avoir des nouvelles du pays aussi, sur le terrain, comment que ça se passait depuis la dernière fois que j'y suis allée. Et puis, la suite, donc, ça a suivi. Je ne sais pas comment dire. J'ai continué la correspondance. Puis, on a décidé en chemin d'en faire le corps de notre spectacle.
Tu l'as dit déjà aussi que tu t'es senti chez toi à Port-au-Prince. Tu as trouvé des similitudes entre ta communauté de Pessamite. C'est quoi les fils invisibles qui relient donc le peuple Innu au peuple haïtien?
Ce qui m'a toujours frappé, en fait, c'est vraiment le sens de la communauté, le sens d'être ensemble, autant frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, parents, grands-parents. Il y a des liens familiaux et intergénérationnels qui sont encore très forts. Et c'est sûr que pour nous, en tant qu'Autochtones, ça résonne très fort aussi. Et des fois, même, tu sais, malgré ce qui peut arriver, qui peut être un vestige du colonialisme dans nos vies, un vestige, par exemple, ici, de la loi sur les Indiens, etc., des pensionnats, on se rallie à nos liens familiaux qui vont souvent être le fondement même de notre identité, c'est sûr, mais de notre façon d'être dans le monde. À part ça, j'ai vu dans la façon de rire malgré tout, dans la façon d'être dans le moment présent, j'ai reconnu, puis aussi le rythme de vie, le temps, la notion du temps est très semblable, et tout de suite, je m'y suis reconnue. Et eux aussi, j'imagine, ont vu des similitudes dans aussi peut-être dans ma facilité d'entrer dans ce mode de vie-là, de comprendre comment que ça fonctionnait tout de suite, tout simplement parce que je disais, je reconnais, j'ai l'impression d'être chez moi à Pessamite. Puis bon, Samuel n'a pas eu la chance. On a essayé quelques fois, puis ça n'a pas fonctionné. Puis on s'est dit, bon, ça, peut-être qu'un jour ça va fonctionner, mais il n'a pas pu venir à Pessamite ou visiter de plus près une communauté autochtone, mais il le sent de toute façon, il le sentit aussi avec nous. Dès que nous sommes entre autochtones, on se connaît un peu tous un peu de loin ou de près, donc il a senti vraiment ce sens de la communauté. Et il a vu finalement les liens aussi parallèles beaucoup plus en étant ici. Donc, c'est les quelques liens que je pourrais nommer aujourd'hui.
Oui, mais on les voit, c'est fou, hein? Moi, je les ai vus sur scène. Je les ai vus sur scène, j'ai vu... c'est vrai, hein? C'est vrai que dans les premiers peuples, l'humour, les gens ne savent pas, mais vous avez un très bon sens de l'humour. Et on le voit sur scène. Et les Haïtiens aussi ont un très beau sens de l'humour. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette pièce, c'est justement la rencontre de deux peuples qui sont pourtant très éloignés physiquement, géographiquement, mais qui se rejoignent. Et j'avais l'impression, et ça, c'est intéressant, vous faites parler les acteurs, actrices haïtiens, les comédiens haïtiens, la langue innue parle aussi de choses qui se passent au niveau des premiers peuples. Et on demande aussi aux acteurs, actrices des premiers peuples de faire les répliques ou de parler de ce qui se passe en Haïti. C'est intéressant ce mélange-là. Pourquoi?
Surtout qu'on a travaillé la trame narrative, au final, déjà dès le départ aussi, quand je lisais les auteurs de la Miritude, par exemple, je voyais beaucoup finalement le discours d'autres auteurs, autrices autochtones d'ici. Je reconnaissais beaucoup déjà aussi dans la façon de vouloir s'exprimer, de vouloir utiliser la parole, la poésie, la littérature pour tracer notre propre trajectoire. Je m'étais dit, c'est sûr qu'à quelque part, nos discours vont se rejoindre. Puis éventuellement aussi, tout au long du travail, mais même l'an passé, on avait réalisé même un casting à un certain moment donné pour trouver une actrice qui nous manquait. Mais on avait déjà, par exemple, lors de ce casting, on a donné un texte, on n'a pas dit de qui était ce texte. Et chacune des personnes avait une interprétation différente et croyait même que c'était écrit, par exemple, par quelqu'un de leur peuple, alors que c'était pas le cas. Donc, c'était de voir finalement à quel point chaque personne prenait s'approprier le texte comme si c'était le sien, en croyant même que c'était écrit par quelqu'un de chez eux. Et je m'étais dit, justement, je voulais voir quelque chose de même, bon, plus tard dans le projet, puis finalement, on a eu la chance de le voir très tôt. Et finalement, avec les comédiens, on a fait ce travail-là. Déjà, au départ, on s'était dit, bon, au départ, est-ce qu'on voulait des noms de personnages, des quatre personnages, trois, en tout cas. Puis finalement, au fil du temps, on s'est dit, bon, il y a deux personnages, il y a Samuel et Natacha. Leurs amis les entourent, leur famille les entoure, etc. Ça devient des personnages secondaires, mais les personnages principaux sont Samuel et Natacha. On a quatre comédiens, puis on s'est dit, on veut pas non plus qu'il y ait une seule comédienne, par exemple, qui fait Natacha, une seule comédienne qui fait... En tout cas, puis finalement, on s'est dit, en quelque sorte, chacun des comédiens porte la voix, oui, d'un auteur, d'un personnage, mais porte la voix de l'autre aussi. Et finalement, chaque peut-être vu l'histoire qui traverse les personnages, c'est des personnages fragmentés, forcément, qui dans leur quête, c'est de se reconstruire. Et finalement, chaque peuple aussi a cette quête de se reconstruire en dépit de tout, puis justement en le faisant par eux-mêmes. Et je m'étais dit, on peut vraiment aller travailler cette fragmentation, mais aussi cette convergence-là entre soit les individus ou entre les deux cultures qui finalement portent des héritages communs. Et je m'étais dit, bon, avec Samuel aussi, on s'était dit que ce serait intéressant de travailler ça. Puis finalement, c'est un retour qu'on reçoit beaucoup, justement, puis ça nous fait très plaisir que les gens se rendent compte aussi que le discours peut être partagé, peut être porté par les autres aussi. Oui. Si, par exemple, les uns sont fatigués, ils ne peuvent plus mener la lutte, mais les autres peuvent le porter aussi, surtout quand c'est des gens qui luttent justement dans un même... sur la même scène, sur le même plateau, dans un même lieu. En tout cas, c'est toujours le fun d'entendre un retour à propos de ça. Puis je m'étais dit aussi, bon, justement, je voudrais qu'on voit cette solidarité-là. Elle peut être nécessaire pour qu'on puisse guérir ensemble.
Ben, on la voit certainement sur scène. La mise en scène est formidable. Je vais terminer sur cette question-là. Samuel, justement, mentionne que tout ce qui se passe d'effrayant aujourd'hui s'explique par un manque d'amour. Est-ce que WASH est avant tout une tentative de guérir ensemble, on vient de le mentionner, plutôt qu'une charge politique?
Absolument, absolument. Bien avant le politique, puis malheureusement, là où on se trouve, tout autant personnellement que collectivement, c'est politique, il y a une charge politique, mais avant tout, c'est l'histoire d'individus et de peuples qui cherchent une façon de réapprendre à s'aimer eux-mêmes et de s'aimer entre eux aussi. Donc, c'est avant tout un acte d'amour. Puis, on s'était dit, même quand on a pensé le synopsis, on s'est dit, mais au final, on sait très bien qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est une lettre incandescente d'amour, puis on espère que les gens vont ressentir ça, qu'il faut retourner à cet amour-là. les gens qui veulent se reconstruire et qui veulent se réapprendre à s'aimer, on doit envoyer beaucoup d'amour. Je ne sais pas comment dire, mais oui, c'est de retrouver le sens de cet amour-là qui est universel finalement et qui peut être partagé entre tous.
Ben en tout cas, on le sait depuis... Excuse-moi, je fais encore un autre parallèle, mais on le sait depuis le Super Bowl avec Bad Bunny qui nous l'a dit, hein, que l'amour, c'est plus fort que tout. Mais on l'a senti, cet amour-là. Moi, je t'avoue, je suis sorti de cette pièce-là. D'abord, j'ai été choqué de voir tous les affres du colonialisme sur les deux peuples. Bon, évidemment, c'est pas nouveau, on le sait, mais cet amour-là nous a fait beaucoup de bien. Je voulais beaucoup te remercier pour ça, Natacha Canapé-Fontaine, et toi et Samuel, pour cette pièce de théâtre qui, je le répète, est présentée au Théâtre des Curé à Montréal jusqu'au 21 février. Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Notre prochaine invitée s'appelle Céleste Godin, autrice de l'Acadie, dont la voix singulière bouscule la scène théâtrale. Et elle nous présente Bouée à Espace Libre, ici à Montréal, une œuvre qui nous propulse dans le cosmos pour mieux sonder notre humanité. Bienvenue, Céleste, à Canalem.
Bonjour, ça va?
Ça va très bien. Céleste, tu passes de l'identité acadienne de Moncton dans ta pièce Overlap à l'immensité de l'univers avec Bouée. Qu'est-ce qui a provoqué là, ce saut vers les étoiles?
Ben, je pense qu'après s'avoir regardé un peu nous-mêmes dans la glace, c'est normal de sortir ses poubelles puis de les regarder par le ciel pour poser des questions. Ou peut-être que Moncton est l'univers entier, je suis pas sûre encore.
Ça commence bien, toi, ça me fait rire. Non, mais sérieusement, donc on avait pas mal de poubelles à sortir?
Quand même pas pire. On a même laissé des poubelles sur la Lune. Là. Il y a vraiment de la poubelle humaine à sortir un peu partout.
Oui, parce que, bon, on peut le rappeler, hein, je pense qu'on a laissé, je ne sais plus combien de tonnes de... En tout cas, d'excréments humains un peu partout où on a passé avec les astronautes, en effet.
Oui, 146 000 tonnes de poubelles et 96 sacs de...
Aïe. Bon, ben, parlons de l'inspiration de ta pièce, les disques d'or envoyés des sondes voyageurs lancées en 1977.
Ouais, c'est un projet de la NASA avec Carl Sagan qui joue la direction technique et puis Annie Drian qui joue la direction artistique. Et puis, c'est fou, on a envoyé disques en or sur lesquels on a gravé des images, un processus scientifique que je comprends pas pantoute. et puis, c'est rendu à l'extérieur de notre système solaire. Mais parce que c'était un projet gouvernemental, ils ont décidé d'être vraiment gentils. Donc, au début, ils devaient avoir des images des humains, le corps humain nu. Puis, ils ont décidé que c'était trop... C'était pas approprié pour les extraterrestres. On voit juste des silhouettes maintenant. Puis je me suis dit, ah, si quelqu'un attrape ça puis qu'ils viennent les visiter, ils vont être sous le choc s'ils débarquent à une fête d'enfants où que les parents se disputent dans un coin ou qu'ils débarquent dans la bande de Gaza. Donc, j'ai voulu faire comme un suivi. Comme un Tinder profil plus honnête avant la première date, si on veut.
Ouais. Ben justement, en passant, moi, j'étais convaincu que tu avais tout compris comment ça marchait, parce que quand j'ai vu la pièce, c'était vendredi, je mets les dates de mes premières que j'ai vues, mais j'avais l'impression, mon Dieu, elle a fait des recherches, elle comprend tout ce qui se passe là, mais en tout cas...
tu m'avais bien... Je comprends bien comment un disque en vinyle marche. les yeux, là.
Si on devait aujourd'hui graver un disque d'or, donc pour représenter ce qu'on est, notre monde, quel message y mettrais-tu?
Ah, mon Dieu, c'est tellement difficile de mettre ça dans un seul message, comme on est une espèce horrible, puis on est une espèce incroyable en même temps. Puis probablement, je glisserais un petit drapeau acadien quelque part, puis probablement, je parlerais de mon chat, puis un peu de tout, là.
Sur scène, on voit, en fait, c'est ça qui est intéressant, les comédiens, les comédiennes présentent des monologues très intimes, mais avec des réflexions politiques. Pourquoi cette forme de confidence est-elle plus apte donc à briser cette... je vais utiliser encore une analogie, mais c'est une, à la blague, notre solitude interstellaire?
Tu sais, le premier disque, il y avait quelques messages de politiciens, mais qui avaient tout été comme mis ensemble un par-dessus l'autre, puis je pensais que ce serait plus intéressant d'être plus démocratique. Et si on choisissait des personnes normales pour parler aux extraterrestres plutôt que nos leaders puis nos politiciens, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis ça donne le mélange qu'on vit en vraie vie, qui est le mélange de « on check les nouvelles le matin », puis ensuite « qu'est-ce qui se passe avec mes chaussettes dépareillées ?» Puis ensuite « ah oh oui, il faudrait que j'appelle ma mère. Ah oh, oui, puis oh mon Dieu. Oh my God, il y a une nouvelle poussée scientifique. » C'est tout en même temps. Ça, pour moi, comme l'intime et l'énorme, ça se rejoint tout. Et puis moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup à la première personne, donc ça fait beaucoup des monologues dans cette forme-là. Où est-ce que... tu sais, si on se parle à haute voix, ça sort un peu tout en même temps.
Ouais. Et c'est aussi le choix de la langue, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un mélange de cette langue acadienne et aussi cette langue qu'on appelle, tu me corrigeras, le chiac aussi, qui est un peu une langue un peu qu'on pourrait comparer à ce qu'on dirait le joual au Québec, mais différente. Alors, c'est quoi le rôle de la langue dans tout ça?
Effectivement, je vais te corriger. Moi, je parle pas chiac. Le chiac, ça vient du sud de Nouveau-Brunswick. Moi, je viens de la Nouvelle-Écosse. Donc, chez nous, on parle aussi un mélange de français et d'anglais, mais la formule n'est pas la même.
Je pense qu'on dit Acadian, hein, en Nouvelle-Écosse?
Acadian, si tu viens de la Baie-Sainte-Marie, moi, je viens pas de là non plus.
Non.
moi, je viens d'Halifax. C'est sûr que c'est ces mélanges de langues-là font partie de mon entourage, mais c'est pas ma langue à moi, exactement. La mienne n'a pas de nom. Je viens d'Halifax. Notre culture n'a pas un nom qui est connu. So, pour moi, le français et l'anglais, c'est comme deux robinets d'eau. Puis j'ai le luxe d'être parfaitement bilingue pour pouvoir jouer avec ce mélange-là. Fait que parfois, il y a des bouts de texte en bruit qui sonnent vraiment plus comme le sud-est du Nouveau-Brunswick. Et puis, il y en a que c'est des mélanges que j'ai carrément inventés moi-même aussi.
Ouais.
Je pense que pour moi, il y a un jeu dans cette texture-là. Si on parle comme si les gens sont familiers avec le joual ou avec... Je sais pas s'il y a un nom pour le mélange de langues que les jeunes font à Montréal en ce moment-là, mais il est différent du joual.
Oui.
Mais c'est comme si on est familier, si l'oreille est familière avec un de ces mélanges-là, je pense qu'on va se reconnaître un peu dans le texte du bruit, puis aussi trouver que c'est un peu exotique. Puis ça va pour tout le monde, parce que j'ai des bouts que j'ai vraiment inventés de toutes pièces, ce mélange-là. Mais pour moi, ça ajoute à la richesse. Puis ça donne une autre texture linguistique qui change d'un monologue à l'autre. Ça change un peu de registre de langue, si on veut.
J'ai l'impression que tu vas dans toutes les identités plurielles qui nous habitent tout un chacun, pas juste toi, mais par exemple, tu vas dans les tiennes et ça se représente dans la langue, c'est ça?
Oui, puis je pense que il y a comme un mélange là-dessous qu'on a le droit d'inventer avec
oui.
la langue. Ça ne sert pas juste à reproduire la façon qu'on parle. Ça peut servir à ça, et c'est important au théâtre, et c'est important dans la musique de faire ressortir nos parlers comme ils sont. Et aussi, on peut s'inventer des nouvelles façons qui nous ressemblent peut-être même encore plus que ce qui se passe dans nos communautés.
Cela dit, le portrait qui est parfois nommé là, par les comédiens et les comédiennes sur scène dans leur monologue, c'est pas toujours très, très beau. Ça parle de ce qu'on est présentement réellement. C'était nécessaire pour toi de mettre ça de l'avant?
Absolument. Mais je pense aussi, comme on a écrit, une partie de l'écriture s'est passée en pandémie. Et puis, je regardais vraiment le monde à travers ma petite fenêtre d'écran de mon téléphone. Et puis, c'est bien des choses qui se passent, là. Puis, je pense que c'est important, quand on parle de l'humanité, de reconnaître les choses qu'on vit encore. On n'est pas rendu à être une espèce paisible. Ça, pour moi, c'est important de faire ressortir ça, surtout comme en contraste avec ce qu'on peut voir en science-fiction. La science-fiction est soit d'habitude super dystopique ou trop optimiste.
Ouais.
Puis où est-ce que nous, on n'est pas supposé être dans le futur, on a dépassé l'an 2000, là. dépasser 2025, mais ouf, je me retrouve plus. C'est comme, tu sais, notre futur est disposé à ressembler à ça, en tout cas, c'est ça qui ressemble.
Mais on vit une certaine dystopie au sud de la frontière, mais ça, c'est autre chose.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on vit cette semaine-ci, mais ce qu'on vivait il y a quelques années, c'était une autre dystopie de frontière. Hein, quelque part dans mon écriture, la Russie a envahi l'Ukraine. Tu sais, il y a suffit de cliquer sur ce qui se passe en Haïti à peu près n'importe quel moment pour se sentir dystopique.
Tout à fait.
Puis ça fait partie de notre expérience sur cette planète.
Oui.
Puis des fois, je tricote des chapeaux pour mon chat. Ça.
Mais...
en même temps, la même semaine, la même journée, même.
Tout à fait. Okay? Tout à fait. T'es ce qu'on appelle une personne Trekkie ou Trekker, parce que j'ai vu beaucoup de références à Star Trek. À beaucoup...
Ouais, moi et le metteur en scène, Marc-André Charon, ça a toujours fait partie de notre amitié, qu'on est des gens qui trippent sur du Trek. Je dirais pas qu'on est des experts du tout. Là, il y a des gens qui sont bien plus connaissants que nous là-dedans, mais on est des fans. Ça fait que, tu sais, des fois, on était fâchés en répétition, puis on avait regardé la nouvelle émission de Star Trek, que nous, ça nous recollait ensemble. C'était comme un luxe pour moi de pouvoir aller à fond en utilisant le langage de Star Trek, les références de Star Trek, comme un autre mécanisme de langage pour parler de l'anxiété qu'on vit tout de suite. Star Trek nous a dit que l'humanité était meilleure que ça, là. Ça fait que ça joue un peu sur ces différences-là.
On prévoit un monde meilleur qui n'est pas tout à fait arrivé, mais on va l'espérer encore. Cela dit, beaucoup d'humour, Céleste, dans ce texte. En fait, on rit beaucoup, même si des fois, on rit peut-être pas pour les bonnes raisons, mais on rit. C'est important pour toi, l'humour, là-dedans?
Je sais pas, ça fait partie de ma personne, je pense. Si je peux être cynique parfois, c'est bien plus comique d'être cynique pendant que t'es sarcastique. Tu sais, même quand ça va, moi, quand ça va mal, ça va pire, puis là, ça continue d'aller mal, puis ça commence à devenir ridicule. Là, je commence à rire. Donc, pour moi, ça fait partie de ça, puis comme le spectacle parle quand même de des thèmes existentiels, il y a des questions lourdes, il y a des regards difficiles sur la planète où est-ce qu'on est. Pour moi, pour la bienveillance du spectateur aussi, c'est important de garder l'humour, parce que même quand ça va mal, c'est drôle pareil, la vie. Mm-hmm. Mais aussi, je crois que ça permet d'apporter le public dans des thématiques un peu plus lourdes, sans les alourdir en sortant de la salle aussi. Ça, c'est un peu ma personnalité, mais c'est aussi c'est intentionnel pour pas trop briser le spectateur en parlant de la planète et l'espace.
En tout cas, moi, je suis sorti indemne de cette...
OK, good, merci.
Bonne chance. Écoute, merci beaucoup, beaucoup, Céleste Godin, pour cette pièce. Donc, je rappelle, Bouée, qui est mise en scène par Marc-André Charon. C'est présenté à Espace Libre jusqu'au 21 février. Et on vient de parler, donc, avec l'autrix de cette pièce, Céleste Godin. Merci beaucoup, Céleste.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Dans le Nouvelliste du 12 février, détecter la maladie d'Alzheimer jusqu'à 20 ans avant les premiers symptômes pourrait bientôt devenir possible grâce à une simple prise de sang. Une équipe de l'Université Laval a identifié deux molécules métaboliques, dont la protéine IGFBP.2, qui agissent comme des signaux d'alarme précoces au déclin cognitif. Contrairement aux tests actuels qui interviennent souvent à un stade avancé, ces biomarqueurs sanguins permettraient un dépistage beaucoup moins invasif que les prélèvements de liquide céphalo-rachidien. L'étude publiée dans la revue spécialisée Alzheimer's and Dementia est appuyée sur l'analyse de données de plus de 290 participants québécois âgés de 65 ans et plus. C'est temps pour moi de remercier l'équipe, donc Mathieu Tessier à la mise en onde et aussi Hélène Denis qui sera de retour demain pour l'animation, qui m'a aidé à la recherche. Et je vous invite à 17h pour écouter l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Il sera question de positions prises par le PQ qui inquiète beaucoup de personnes dans les communautés LGBT. Donc, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à 17h, je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine.